Et accrochez-vous, on est reparti pour les midis. À 13h, je recevrai l'autrice, compositrice, interprète, PR de B. Et tout de suite, place à Marie Sorbier au Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors que la fréquentation des salles de cinéma est toujours en berne, l'émission hebdomadaire d'Arte, Blow Up, fête, elle, ses 15 ans. Blow Up, conçu, monté et incarné par Luc Lagier, est un hymne à la cinéphilie joyeuse, ludique et érudite. Alors on s'interroge souvent sur comment redonner envie au plus grand nombre de fréquenter les salles de cinéma. Une partie de la réponse est peut-être sur le petit écran. Comment enrichir et réveiller notre mémoire cinéphile? C'est le dossier du Point Culture du jour. Luc Lagier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma et vous proposez chaque semaine un magazine sur la plateforme numérique d'Arte, Blow Up, qui pense le cinéma par collision d'images, d'archives et d'extraits. Alors Blow Up fête ses 15 ans et en choisissant comme titre ce film d'Antonioni, vous résumiez déjà votre projet éditorial, c'est-à-dire travailler la mémoire cinéphile. Qu'est-ce que cette collision d'images que j'évoquais vous a permis finalement ?
Elle m'a permis de faire une émission de cinéma comme je le rêvais. Moi, j'avais travaillé avant dans divers revues, documentaires, etc. Et quand on m'a proposé d'imaginer Blow Up, je leur ai tout de suite dit à Arte, je définis d'abord Blow Up parce que je ne veux plus faire. Donc, plus d'entretien avec des cinéastes, avec des actrices, des acteurs, avec des producteurs, plus de tournage à Cannes, plus de reportages dans les écoles de cinéma. D'autres le faisaient, moi aussi d'ailleurs, et d'autres le faisaient bien mieux que moi, et d'autres continuent à le faire bien mieux que moi. Moi, ce que je voulais, c'était, je leur ai dit, je veux travailler avec les images, être autour des images, parmi elles. Et faire un magazine avec les images, ça nécessitait de prendre en charge le montage. Une voix off qui plonge dans les archives, qui joue avec les images, qui les remonte, les reclasse. Ça ressemble un peu à Blow Up, le film. Un photographe qui regarde ses photos et qui imagine peut-être un meurtre, une tentative de meurtre dans les photos qu'il a grandi. Blow Up, à grandir. Et c'est ce que j'aime faire, jouer avec les images, les questionner, rapprocher les images entre elles, les mettre en rapport et créer une sorte de mémoire gigantesque du cinéma. Avec les entrées et les thématiques les plus variées possibles. Je peux parler de sport, le foot au cinéma, le tennis au cinéma, je peux parler de couleurs, le violet au cinéma. Je peux parler de l'influence de Van Gogh, de Kafka, de David Bowie, de ville. Qu'est-ce que filmer New York? Qu'est-ce que filmer Tokyo? Comment le requin, le chat, le chien, le singe, le cheval a infusé l'histoire du cinéma? Et en fait, depuis 15 ans, ça fait 1700 sujets. 1700 entrées possibles avec des sujets de 10 à 15 minutes, 20 minutes parfois, que en extrait. Et surtout assez subjectif, voire même très subjectif.
Alors vous venez de le dire, un blow-up se permet toutes les libertés, liberté de format, liberté de ton, vous avez parlé d'un ton ludique, mais il y a aussi également, et en même temps, c'est ça qui en fait la particularité, un ton ultra cinéphile, ça peut être un essai critique comme une capsule pédagogique. Comment travaillez-vous en fait? Quel est le point de départ? Pourquoi d'un coup vous décidez de faire un épisode sur la couleur violette ou sur tel ou tel réalisateur?
Alors, je ne me lance pas dans un sujet blow-up sans savoir qu'il va y avoir une centaine, 150, 200 occurrences. Je cherche à faire quelque chose sur le portrait au cinéma et je n'ai pas encore assez de films. Donc je me lance pas encore dans le sujet. Je veux qu'il y ait une foison d'exemples. Et je sais déjà que la forêt au cinéma, que je n'ai pas encore fait, que je vais faire bientôt, j'ai déjà 500 exemples. Donc de scènes, de films entièrement tournés en forêt. Et donc il y a cet effet foisonnant qui m'intéresse.
Vous les collectez, ces images-là? Comment vous savez qu'il y en a 500 et où est-ce qu'elles sont dans votre tête?
Alors, principalement dans ma tête, mais j'ai un nombre de sujets que je sais que je ferai un jour, comme les insectes au cinéma, les mouches, les cafards, c'est pas très joyeux, mais en même temps c'est une thématique comme une autre, les libellules, c'est beaucoup plus joyeux, les abeilles, c'est beaucoup plus joyeux, je sais que je le ferai. Et donc quand je regarde un film par hasard sur d'autres choses, ou par pour le simple plaisir, hein, c'est d'abord du plaisir, et ben je peux tomber par hasard sur une scène avec une mouche. Je fais un sujet sur Psychose, la fin Psychose, je ne ferai pas de mal à une mouche avec une mouche qui se pose sur le pouce d'Anthony Perkins, et évidemment je me dis, ah bah oui, faut pas que je rate cette scène avec une mouche très importante à la fin de Psychose. Donc je passe mon temps à ne pas encore faire les sujets que je ferai un jour. Récemment, j'ai trouvé l'idée de faire des sujets sur des régions au cinéma. Et à partir du moment où vous trouvez cette idée de faire, de se poser cette question, comment le cinéma a parlé de la Normandie, des côtes normandes, de un homme et une femme, de Lelouch au débarquement. À partir du moment où je trouve la Normandie et que j'ai envie de faire la Normandie au cinéma, je me dis, ce serait bien de faire l'inverse, la Côte d'Azur. Du coup, ce serait pas mal de faire pour le festival Lumière à Lyon, la région lyonnaise. Ce serait pas mal de faire l'Alsace. Ce serait pas mal de faire la Bretagne. Et puis après, vous avez une succession de sujets possibles, et c'est assez intéressant.
Pour cet anniversaire, ces 15 ans de Blow Up, vous revenez à Vertigo. Alors Vertigo, c'était votre premier sujet, et le film que vous avez le plus cité, je crois. Pourquoi ce film-là est-il nécessaire, selon vous, pour interroger l'histoire du cinéma ?
Oh ben Vertigo est un grand film, ça c'est une évidence, mais peut-être plus fascinant encore que des Citizen Kane ou d'autres films. C'est-à-dire que Vertigo parle de la cinéphilie, je pense, d'une façon, puisque c'est un personnage, c'est un homme, qui tombe amoureux d'une image. C'est une femme qui apparaît à lui comme une image cinématographique, magnifiée par la musique, magnifiée par l'éclairage, le flou rouge autour de ce visage de Kim Novak. Et James Stewart est en position de spectateur pendant toute une partie du film, et il va fantasmer une image qui ne lui est pas accessible. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de l'ordre de la fascination pour une image de cinéma. Et cette image, dans le film Vertigo, va disparaître, va mourir, et il va vouloir la recréer. Et dans cette recréation, il y a quelque chose de l'ordre de l'œuvre artistique. Essayer de recréer quelque chose qui nous a marqué. Et c'est ce qu'il va faire dans le film, et notamment dans la dernière partie du film. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la mise en abîme, d'un amour du cinéma, d'un amour de la beauté, d'un amour de je ne sais quoi, de la musique, d'un amour d'être subjugué par quelque chose. Et moi, c'est un film que j'ai vu adolescent, à 12 ans, peut-être presque trop tôt. J'ai été effrayé par le film. Pour moi, c'est un film quasiment d'épouvante. J'ai eu peur de ce film, j'ai eu peur de la musique de Bernard Herrmann, j'ai eu peur de l'ambiance nécrophile, évidemment, parce qu'à un moment donné, il refait un personnage qui est mort. Donc c'est assez glauque, c'est sombre. Et en même temps, il y a une beauté qui est de vouloir jouer avec le temps, de vouloir retrouver quelque chose qui est assez beau et qui a dû me parler, sans doute, par rapport aux jeunes cinéphiles que je n'étais pas encore. Mais surtout, je crois qu'on en revient toujours à l'adolescence. On revient sans cesse, souvent, moi, un cinéaste comme John Carpenter, qui a fait des films d'horreur comme Halloween, comme The Fog, comme The Thing, est un cinéaste, je reviens sans cesse à lui. Et c'est un cinéma que j'ai découvert adolescent. Donc je crois qu'il y a beaucoup ça. Et j'ai beaucoup aimé, pour les 15 ans, boucler la boucle et refaire à nouveau un sujet sur Vertigo, qui est encore une fois un sujet mis en abîme, puisque c'est comment Vertigo a infusé le cinéma d'aujourd'hui. Le cinéma, en tous les cas, de 58 à aujourd'hui. Et ça passe par Brian De Palma, ça on le sait, ça passe par Chantal Akerman, on le sait un peu moins, La Captive, qui est un film d'après Proust, mais aussi très influencé par Vertigo, et ça passe aussi par les Simpsons, ça passe par le groupe metal Faith No More, ça passe par beaucoup de choses. J'aime bien que Blow Up brasse large, mais il faut que Blow Up brasse sincère. On a tous une mémoire assez importante, beaucoup plus importante qu'on ne le croit au départ, parce que quand on travaille, on voit que finalement, notre mémoire est assez grande et assez variée, tous. Et moi, j'essaie de le promouvoir, ça.
Bien, merci beaucoup, Luc Lagier. On vous souhaite donc un joyeux anniversaire pour ces 15 ans et encore beaucoup d'épisodes de Blow Up à venir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, Jafar Panahi vient d'être condamné par contumace en Iran.
Le cinéaste iranien Palme d'Or du dernier festival de Cannes pour son film Un simple accident a été condamné à un an de prison et à l'interdiction de sortir de son pays durant 2 ans. Absent au moment de ce procès pour activité de propagande, Jafar Panahi a été jugé par contumace et risque l'emprisonnement s'il retourne en Iran. Actuellement en tournée aux États-Unis pour promouvoir son film qui représentera la France aux Oscars, le réalisateur de 65 ans s'est toujours refusé à l'exil, malgré les pressions qu'il subit dans son pays. Un choix auquel a dû renoncer l'an dernier un autre de ses compatriotes, le cinéaste Mohammad Rasoulov, condamné lui aussi en 2024 à une peine de prison pour collusion contre la sécurité nationale, suite à la sortie de son film « Les graines du figuier sauvage ».
Notre-Dame de Paris aura finalement bien de nouveaux vitraux contemporains.
Oui, l'association Sites et Monuments avait saisi en 2024 le tribunal administratif de Paris afin de protester contre l'appel à projet lancé par l'État pour remplacer des vitraux contemporains, une partie des vitraux conçus par Viollet-le-Duc. Alors le tribunal vient de rejeter en première instance le recours de l'association en considérant que l'État avait bien le droit de contourner la charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites. L'association a déjà annoncé sa volonté de contester le jugement en appel, ce qui ne suspendrait pas pour autant son application. Les vitraux de Claire Tabouret seront donc posés d'ici quelques mois dans la cathédrale.
Et pour finir, Marie, pardon, une soirée au Forum des Images à Paris proposera ce vendredi des projections de reportages sur Gaza, faits par des Gazaouis.
Oui, c'est un projet initié par Dignité Internationale qui vise à former des jeunes reporters dans des territoires en guerre pour leur offrir l'opportunité de documenter et de raconter leur quotidien. Pendant 10 jours, cette ONG a ainsi accompagné une vingtaine de jeunes Gazaouis pour leur apprendre les techniques du journalisme mobile et documentaire. 17 de ces films seront projetés lors d'une soirée spéciale au Forum des Images. Ce sera le 5 décembre à partir de 19h30. Et bien sûr, vous retrouvez toutes les informations sur la page du Point Culture.
Merci, merci Marie. On se retrouve demain.
À demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles dans la joie, s'il vous plaît.
Grande joie de vous retrouver demain, Marie.
Allez, en attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.